Titan Mag, T comme Titan.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titan.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Au micro et de l'ami fidèle.
Laurent.
À la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. L'automne s'installe. Les nuits reprennent leur pouvoir. Il y a un moyen d'y échapper agréablement, se laisser bercer par la poésie, l'apprivoiser et se l'approprier. L'on entend parler de maison de la poésie et aujourd'hui nous voudrions en savoir plus à ce sujet. Pour cela, nous avons pensé nous informer auprès de la maison de la poésie en Rhône-Alpes, deuxième maison de la poésie en France. Nous avons le plaisir de recevoir Pierre Vieuguet, le fondateur en 1985 avec Andrea Purcell, Jean-François Ballet, Jean-Louis Jacquierroux et Gilles Vachon. À ce jour, Pierre Vieuguet est vice-président de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes, poète. Il dirige et anime la revue de poésie Bacchanal. Pierre Vieuguet, merci d'avoir fait ce déplacement pour vous trouver avec nous autour de ce micro et nous raconter vos passions. Vous parlerez de Brigitte Dayan, qui devait être avec nous, qui est la présidente de cette maison de la poésie et qui a malheureusement n'a pu vous accompagner. Pierre Vieuguet, pouvez-vous nous raconter votre cheminement et un peu celui de Brigitte Dayan, qui, elle, de professeure des écoles, arrive à être présidente d'une maison de la poésie après de longues années de vice-présidence. Est-ce que, pour vous, Pierre, c'est l'amour de l'écriture et de la poésie qui vous fait créer la maison de la poésie en 85? Qu'est-ce qui déclenche ce besoin? Est-ce une histoire de vie?
Oui, tout à fait, mais comme beaucoup de gens qui écoutent cette émission, disons que enfant, adolescent, Brigitte, comme moi, comme tout le monde, entend de la poésie, on apprend par cœur, on lit, on écrit, quand ça devient utile, ça devient nécessaire, quand on passe des moments pour soi, plus secrets, plus intimes, voilà, on écrit... On a besoin de cette poésie. Pour ce qui me concerne, moi j'ai grandi dans la ville où est né Paul-Éluard. J'ai été au lycée Paul-Éluard et donc j'ai fréquenté, dans les enseignants, les traducteurs de Pablo Neruda, des gens qui avaient été amis d'Éluard. Donc quand j'étais en sixième, où j'allais à la bibliothèque municipale, juste au-dessus, il y avait le musée Paul-Éluard. Donc j'ai découvert ses écrits, ses dessins, les photos de Neuch, les photos de Man Ray. Et donc j'ai été bercé par effectivement cette poésie, parce que les chemins de l'école, ça passait par les maisons que son père avait loties sur Saint-Denis. Brigitte, si je peux parler d'elle, elle a grandi dans les quartiers Tesserre de Grenoble, et la poésie, c'était son père, c'était ses parents qui lui transmettaient, qui la connaissaient aussi, qui connaissaient aussi tout un tas de textes par cœur, et la poésie, dans ce quartier Tesserre, dans les moments d'enfance avec les maisons de jeunes, dans les périodes de la guerre d'Algérie, cette poésie a été extrêmement nécessaire aussi pour elle. Voilà, et il y a ce parcours de professeur de écoles, de voyage, de travail en Algérie, à Madagascar, mais aussi pendant 20 ans, la responsabilité de la... du secteur culturel de la Fédération des œuvres laïques sur l'Isère. Donc tout un travail autour de la littérature, de l'éducation populaire, où la poésie est extrêmement présente.
Ça a tout à fait imbibé, comme vous, ce n'est pas par hasard qu'on crée ce genre de maison de la poésie. Et comment crée-t-on une maison de la poésie en général? Est-ce qu'il faut des règles bien spécifiques? Comment cela vous est venu, cette idée, et puis ce fait de créer?
Déjà, créer une maison de la poésie ou un lieu pour la poésie, c'est aussi avoir le plaisir de la rencontre, la curiosité de l'autre, la curiosité des autres. Donc moi, à ce moment-là, j'ai été embauché en 76 à Saint-Martin-d'Hères comme bibliothécaire. Une bibliothèque municipale, c'est une ouverture encyclopédique sur tout le monde, mais bien sûr la littérature contemporaine et les gens qui écrivent autour. Les poètes qui écrivent là, qui vivent à Grenoble, qui vivent en Isère, qui vivent à Bourgoin, Villefontaine, dans différents endroits de l'Isère. Donc on rencontre ces gens, on commence à faire tout un tas de soirées en 77. Il pleut sur Santiago autour de Pablo Neruda, puis on accueille Pierre Segers, on accueille Marie-Claire Bancard, on accueille... Osvaldo Soriano qui vient d'Argentine, on accueille Tahar Ben Jelloun, on accueille, avec cette union des écrivains, qui est partie prenante avec Andra Percel, Gilles Vachon, partie prenante de l'émanation de cette maison de la poésie, donc tout un tas de soirées régulières. Et ce qui va nous motiver encore plus, c'est quand il se crée ces premières journées nationales de la poésie, alors je crois que c'est 82, nous la première on l'a fait en 83, mais pour la première fois, on fait quelque chose, on fait une manifestation qui s'appelle « Vivre avec les poètes », sacré sinécure. Mais avec des spectacles, une exposition de travail en tandem de poètes et de plasticiens, de création d'œuvres uniques qu'on expose, comme sont les murs aux poèmes qu'avait créé Vincent Montero, l'éditeur de la presse Abra à Paris, qui avait rencontré Andréa Percel dans les années 50.
Est-ce que c'est plus facile à ce moment-là de réunir ou de faire appel à des poètes, à des auteurs, à des plasticiens? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à aujourd'hui pour faire déplacer du monde?
Je ne crois pas que ce soit plus facile, plus difficile. On discutait on a eu une rencontre autour de Philippe de Boissy qui a été à l'origine des... à la création de la Maison de la Culture de Grenoble en 1968, des premières, de l'activité littéraire et des premiers ateliers d'écriture. Alors parfois, il disait, on avait 200, 300 personnes, un millier de personnes pour une journée de la poésie. Moi, je ne crois pas que ce soit... c'est bien sûr que c'est extrêmement important, mais je pense que tout est possible, si on reprend une formule de 68. Aujourd'hui aussi, il faut juste s'en occuper, se décourager, s'appuyer aussi sur les créateurs, sur plein de gens, et puis sur les écoles, les MJC, les collectivités locales. Faire de la poésie un usage public, ça donnait cette nécessité des mots pour tous, qu'on soit... ingénieur, paysan, travaillant dans une grande surface, etc. La poésie est une nécessité.
Et pour revenir sur la création d'une maison de la poésie, on sait qu'il y a plusieurs maisons de la poésie en France. Y a-t-il des statuts particuliers? Sur quoi repose une maison de la poésie?
Nous sommes, on s'est créé en association loi 1901. Toutes les maisons de la poésie, peut-être sauf une, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt, et un service public d'une communauté de communes. Nous, c'est vrai que toutes ces maisons de la poésie, association loi 1901, on pense à Marseille, on pense à Nantes, on pense à Paris, on pense à Avignon, ont été quand même soutenues fortement par les collectivités, la collectivité locale, la ville qui les accueillait, et aussi les autres collectivités territoriales, départements, région, à plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Faut penser par rapport au spectacle vivant, au théâtre, les coûts sont nettement inférieurs. Ça, c'est pas des coûts immenses. Et à partir d'une bibliothèque municipale, on peut démarrer un fonds poésie et tout un travail de poésie, d'accueil des auteurs, d'accueil des gens qui écrivent, de faire vivre des ateliers d'écriture dans ces bibliothèques municipales, à Bourgoin ou ailleurs.
Et vous parliez de la bibliothèque, vous avez une énorme bibliothèque à la Maison de la Poésie Rhône-Alpes. Comment a-t-elle démarré? Ce sont des dons en général?
Pour l'essentiel, ce sont des dons, oui. Quelques acquisitions à titre enfin onéreux, mais en librairie, mais pour l'essentiel, effectivement, des dons.
Et vous avez là aussi un critère de choix, ou bien parce que c'est immense?
Voilà, disons que la bibliothèque, même si elle a 6000 volumes, et puis bon, des choses rares, des collections rares, enfin dans le domaine de la petite édition, elle a développé aussi un fonds en revue, mais bon, qu'elle a passé l'essentiel de ce fonds de revue à la cave littéraire de Villefontaine. Elle avait à peu près 2700 exemplaires, voilà, qui ont été transmis à la cave littéraire. C'était une bonne chose parce que l'année où elle les a transmis, enfin, elle les a déposés à la cave littéraire, on a eu un incendie dans le lieu en 2007. Donc, à 6 mois près, on a échappé à ce que toutes ces collections soient brûlées. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on a ces collections, mais on ne peut pas dire qu'on en met, disons, 2000 en accès, enfin, dans une salle ouverte à une consultation, spécialisé, mais on n'a pas donné réellement accès. Voilà. Donc on est en train de réfléchir pour l'avenir de cette bibliothèque, peut-être la transmettre à la Bibliothèque universitaire de droit et lettres, qui est particulièrement accessible, voilà, qui est sur Saint-Martin-d'Hères. Voilà, mais disons que c'est pas la partie. Alors quand on posait, oui, c'est quoi une maison de la poésie ou comment on se constitue? On se constitue association loi 1901, mais ce qui constitue une maison de la poésie, c'est un lieu centre de ressources. Donc bien sûr une bibliothèque, mais bien sûr tout un tas de dossiers, de documents. Si on veut écrire, quel est le statut de l'écrivain, quels sont les droits d'auteur, enfin toutes ces choses-là, quels sont les éditeurs en Isère, en Rhône-Alpes, l'ensemble de la France, les éditeurs francophones. Donc on donne accès aux gens à tout un tas de renseignements. Et en dehors enfin, de cet aspect centre de ressources, on anime des ateliers d'écriture, il y en a 25-26 par an, en milieu scolaire, en milieu hospitalier, dans tout un tas de lieux. On fait de la formation pour les enseignants, à l'UFM, enfin ce qui était l'UEFM, la formation des enseignants. Il y a une activité extrêmement diversifiée, puis une programmation annuelle, régulière, avec des choses quasiment toutes les semaines, et puis un festival important. Voilà, une maison de la poésie, c'est un ensemble d'activités qui se complètent, qui fait vraiment, on pourrait dire, un service public de la poésie.
Oui, je voudrais revenir sur le lieu ressource. Qui est-ce qui le fréquente?
Eh bien, le fréquente, disons qu'on a nos informations sur des sites, des informations régulières dans la presse, à la radio et autres, et viennent des adolescents, des lycéens, des adultes, enfin des gens passionnés de poésie, de littérature, mais des gens aussi qui écrivent.
Voilà.
Donc on a des visites régulières, enfin tous les jours, ils passent des gens. Hein.
Vous avez déménagé il y a déjà maintenant un petit moment. Est-ce que ça, il y a eu un impact, ce déménagement? C'était dû, vous étiez dans des lieux que vous avez dû perdre, ou comment cela se passe?
Voilà, les premiers lieux, enfin quand on a créé la Maison de la Poésie, puisqu'on l'a créée à partir d'une bibliothèque, donc le siège de la Maison de la Poésie était dans la bibliothèque centrale de Saint-Martin-d'Hères, la bibliothèque Paul Langevin. Voilà, ça a duré en gros de 85 à 91. Ensuite, pendant 15 ans, on est au couvent des Minimes, qui est un lieu extrêmement intéressant pour toutes les, ce qu'on appelait les nuits du couvent des Minimes, les spectacles d'été dans le cloître. Voilà, enfin, on a pu se développer. Bon, on était sur 80 mètres carrés, enfin, pour ce qui est des locaux, des bureaux et des collections, des bibliothèques. Voilà. Et quand on a eu un incendie, enfin en 2007, en avril 2007, on a déménagé, mais là un peu en urgence, dans une ancienne, dans des locaux désaffectés d'une usine. Voilà, c'était pas des locaux forcément désagréables, c'était d'ancien carreleur, donc il y avait des beaux échantillonnages de carrelage, etc., dans le bureau, et puis surtout un grand lieu de stockage. On est resté là à peu près 9 mois, et ensuite on a été, alors, autant le couvent des Minimes était quand même assez isolé, hein, pour y accéder dans Saint-Martin-d'Air, que là on est dans la rue principale de Saint-Martin-d'Air, dans le quartier commerçant, dans ce qu'on appelle le quartier Croix-Rouge, qui est l'ancien, enfin, quartier ouvrier à proximité de Grenoble, donc très commode au niveau du tram, des transports.
Thank you.
Cœur FM 97.1 avec notre invité Pierre Vieuguet. Nous venons d'entendre, et nous n'entendrons que lui tout au long de nos pauses musicales, Rabbi Abou Khalil dans Rabou Abou Kabou de l'album Blue Camel.
Alors Pierre, vous êtes une association. Comment fonctionne cette association? Combien d'adhérents, des bénévoles, des salariés?
Donc l'association, enfin chaque année, il y a environ 150 adhérents. Voilà, après, bien sûr, ça rayonne beaucoup plus largement. On a un conseil d'administration de 17 ou 18 personnes, un comité de lecture de 12 personnes, enfin voilà, beaucoup de bénévoles extrêmement actifs dans différents secteurs d'activité de la Maison de la Poésie. Voilà ce qui nous permet de tenir une activité importante. Et puis on a deux jeunes salariés, Katia Bouchouyeva, Carole Durand, voilà, qui ont 30 ans, 36 ans, et qui assument un travail extrêmement important. Donc voilà, c'est des conditions assez de bonnes conditions pour développer cette activité. On parlera tout à l'heure peut-être de l'édition Bacchanal, mais c'est vrai que cette revue est autofinancée. Enfin, on tire 1000 exemplaires chaque année et on équilibre, et c'est 23 000 à 24 000 euros de recettes chaque année pour deux éditions, hein, deux numéros sortis dans l'année. Mais il faut penser qu'il y a plein de les gens adhérents de l'association, enfin les bénévoles actifs de cette association, vont sur des salons, des festivals, à Lodève, à Sète, à Paris, à Genève, dans de nombreux, en Berry, là tout récemment, ou Magny, où il y a un projet, à Bourges, voilà. Donc ils présentent les éditions et notre travail dans de nombreux endroits. Voilà, c'est la possibilité effectivement, enfin l'apport effectivement de disponibilité, de temps de bénévoles, voilà, qui est extrêmement important.
On vous a retrouvé d'ailleurs au Salon du Livre à Grenoble.
Au Printemps du Livre à Grenoble, voilà, oui, bien sûr. Oui.
Voilà, alors quand on a la chance d'avoir avec soi, si je puis dire, la vice-présidente de la Maison de la Poésie, moi, il y a une question que je brûle d'envie de lui poser, que je vous pose. C'est quoi la poésie?
C'est quoi la poésie? Ben, c'est un art assez complet qui est lié à la parole humaine, au souffle humain, voilà, c'est quelque chose, et qui est un art vital, voilà, qui, quand les sociétés peuvent être fragilisées à différents moments, la poésie, comme l'art d'ailleurs, mais particulièrement la poésie, permet une expression extrêmement forte, voilà, dans différents domaines, parce que c'est un art extrêmement ancien, hein, de l'oralité, enfin de la station debout de l'homme, voilà, qui traduit par effectivement son cœur, son souffle, sa respiration, les vibrations de sa voix, nombre d'élans de sa vie.
Est-ce qu'on pourrait dire, vous parlez des origines, que c'est lié au chant, peut-être?
C'est lié au chant, bien sûr. Mm-hmm. On pense à la poésie cantilée, on pense, etc. C'est lié au chant. Voilà. Mais effectivement, enfin, les écritures d'aujourd'hui se réfèrent effectivement moins, comme dans les poésies de différents pays, au chant, même si on pourrait dire qu'il y a parfois un regain aujourd'hui de poésie lyrique. Enfin, il y a d'autres formes qui ont été recherchées. Mais c'est vrai que la poésie, enfin, travaille avec les cinq sens. Et il y a une définition de l'encyclopédie Diderot d'Alembert disant que la poésie procède des autres arts. Voilà, mais procède, voilà, elle est musique, elle est image, elle est... enfin, elle est touchée, enfin, voilà, elle est chaque, elle est le goût, elle est toutes ces choses-là.
Et l'imaginaire, parce qu'on...
Et l'imaginaire, bien sûr.
On s'envole.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un texte qui n'est pas musical, qui n'est pas tout ce que vous venez de dire, n'est donc pas un texte poétique, ou est-ce que c'est quand même plus compliqué que ça?
Non, c'est bien sûr qu'un texte poétique, enfin, il y a le travail sur la langue, sur les mots, c'est un objet, le poème est un objet complet, enfin, sans dire c'est une œuvre, c'est un chef-d'œuvre, c'est un objet qui se tient, hein, bon, il y a des grandes poésies épiques, mais on est souvent dans des formes courtes, denses, ramassées. Avec une extrême efficacité, bon, qui touche effectivement à l'émotion de celui qui les entend, celui ou celle qui les entend.
Vous avez parlé tout à l'heure de votre revue Bacchanal. C'est un très très gros ouvrage. Là, vous êtes au numéro 50. Vous préparez pour fin novembre 51 et 52, avec une grande manifestation. Mais comment se prépare une revue comme les Bacchanales? Il y a un thème, vous êtes axé sur l'actualité.
Voilà, alors depuis plusieurs années, alors au début de Bacchanal, on reçoit bien sûr des manuscrits, des choses inédites, donc on travaille en poésie d'aujourd'hui, en poésie contemporaine. Depuis pas mal d'années, on consacre, il y a, enfin, on sort deux numéros, et un numéro qui est consacré, enfin, qui choisit d'être sur un thème, et qui sera le thème choisi pour le festival. Hein. On va être dans le 19e festival. Pour vous dire les thèmes qu'on a pu aborder, depuis, enfin, l'origine de Bacchanal, continent poétique, voilà, sur la poésie dans les différents pays. Hein, l'aspect international nous intéresse beaucoup, les cultures des autres pays nous intéressent beaucoup, des gens aussi qui vivent en France, qui sont de différentes régions et pays d'origine. Le thème de la mer, l'arbre, l'utopie, les utopies, la danse, la paix, la pierre, les étoiles, l'arbre, la chanson, l'ivresse, la place, l'eau, l'oiseau, la poésie grande-bronde, la poésie donc qui dérange, qui proteste. Voilà, on a choisi ce joli titre, Gratte-monde. Ça nous semblait enfantillage, la poésie et l'enfance, les îles, le bois, l'arbre, hein, les mains, la science, poésie et science. Voilà des thèmes. Donc, à chaque numéro pour le festival, on sollicite des gens et puis on lance l'information. Le prochain, dans un an, là, on a bouclé ce numéro là sur la paix, la guerre, et on prépare le prochain festival. Le prochain Bacchanal sera sur le thème du travail. Donc on peut envoyer effectivement des textes. Alors il y aura sur le site la Maison de la Poésie, enfin on a une circulaire avec des choses un peu incitatives autour du thème du travail. Et voilà, après, ben, là, il y a, pour le travail, puisqu'on avait en résidence, on accueille aussi des poètes en résidence pendant 3 mois, 2 mois, enfin, plusieurs mois. Cette année, nous avions Fabienne Zviatli. Donc, Fabienne Zviatli qui a beaucoup écrit là-dessus, enfin, qui a fait pas mal de métiers. Un de ses premiers ouvrages, c'est « Gagner sa vie ». Donc va animer, enfin va impulser aussi ce travail, cette édition. Et puis bon, on a un comité de lecture, ben, qui lit les textes, qui choisit, hein, ce qu'on sollicite, où on reçoit beaucoup plus de textes qu'on peut en éditer.
Et il faut bien une année pour arriver au bout de ce chantier.
Tout à fait, tout à fait.
Vous avez aussi reçu, je crois, ou fait traduire John Berger. Et là aussi, lui, il explique un petit peu ce qu'il dit. « Je suis incapable de te dire ce que l'art accomplit et comment il le fait. Mais je sais que, souvent, l'art a jugé les juges, plaidé la vengeance aux innocents et montré à la postérité les souffrances passées et que, lorsqu'il l'a fait, il a échappé à l'oubli. Je sais aussi que, quelle qu'en soit la forme, les puissants redoutent l'art et que cet art circule parfois dans le peuple comme une rumeur et une légende, parce qu'il donne sens à tout ce que les brutalités de la vie ont d'inexplicable, sens qui nous unit car il est inséparable d'une justice enfin rendue. Quand il agit ainsi, l'art devient le lieu de rencontre de l'invisible, de l'irréductible, de la résistance, du courage et de l'honneur. C'est un peu pour rebondir sur ce que Dominique ouais. demandait, la poésie. Là, c'est une façon de s'inscrire dans,
là,
dans
John, la justice. John Berger exprime cela extrêmement bien. Voilà, mais John a travaillé enfin, à une œuvre en poésie, en roman. Enfin, c'est un homme qui vit aujourd'hui en Haute-Savoie, qui est anglais, qui est un écrivain paysan. Hein, il fait les foins. Enfin, voilà, il travaille avec son fils qui s'occupe des bêtes. Enfin, donc c'est un homme extrêmement concret. Mais cet homme, publie dans plein de journaux anglais, publie de partout, enfin, avec des écrits sur l'art, des écrits sur la peinture. Il dessine, il peint lui-même. Donc un homme très, très curieux, très complet, enfin, à la croisée aussi, enfin, différent, et aussi avec un engagement humain extrêmement fort. Faut penser, enfin, on parle souvent de l'ouvrage de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Mais le premier dans la collection qui est sorti, c'est un ouvrage de John Berger sur le chaos économique, etc., le chaos imposé au peuple. Et cet ouvrage, enfin, la décision de faire Indignez-vous, c'est une rencontre avec John Berger, Stéphane Hessel et l'éditeur, au Glière et ensuite au Festival du Mont-Sartou, voilà, qui a fait ce livre qu'on trouve de partout et qui est une nécessité pour chacun. Donc John, voilà, poète, écrivain, peintre, etc., critique d'art, mais homme très complet et particulièrement engagé. Et ses mots traduisent bien ce qu'il est.
Et justement, dans ce monde tourmenté dans lequel nous sommes, quel poids la poésie peut-elle avoir ?
La poésie peut avoir un poids comme elle en a eu. Elle en a eu, on pense aux poètes de la Résistance. Hein,
voilà, avec Segers aussi.
Avec Pierre Segers, avec Elvard, avec Max Jacob, avec Desnos, enfin, des gens de courage. Pensez, pour parler de la radio, puisque on est dans une radio, Desnos était un homme de radio, est un homme de franchement de son temps, enfin de jazz, de mathématiques, etc. Et il a continué quasiment jusqu'au bout, alors qu'on le menaçait, enfin des gens comme Pierre Laval, Céline, disaient il faut chasser ce Youpin, il faut chasser ce Juif, voilà, on l'a fait partir en déportation, il est mort dans un camp de Térésine en 45, du typhus. Mais voilà, Desnos alliait la poésie pour les enfants, avec les choses, avec la radio, le jazz et tout cela.
Et vous parliez d'Éluard, quelle influence Éluard a-t-il eu sur votre façon de lire ou faire de la poésie ?
Chez Éluard, il y a l'idée, enfin, qu'avait Rimbaud de réinventer la vie, hein. Lui, enfin, parlait de réinventer l'amour, réinventer la vie. Donc il y a cette attention à l'autre, attention aux femmes, hein. C'est un des rares poètes, enfin, qui a un immense respect, enfin, de la femme. Faut penser que cet homme a travaillé, enfin, pendant la guerre, où il était clandestin, il se cache dans un hôpital psychiatrique du docteur Bonafé. Et il va travailler avec des patientes, voilà, et créer aussi des textes pour essayer de faire sortir mère et fille, enfin, de cette souffrance terrible de la maladie mentale, enfin, puis de cette période d'oppression de la guerre.
Thank you.
FM 97.1 avec notre invité Pierre Vieuguet de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes. Nous venons d'entendre de l'album Between Dusk and Dawn. Nous avons entendu donc Rabbi Abou Khalil dans Hugo in Love. Et voici notre coup de cœur des lecteurs avec Majolire, les passeurs de mots, partenaires de nos passions et complices de nos découvertes avec le porte-parole Dominique Molin. Et merci Dominique de nous conter ton choix à nous faire craquer l'ossature.
Alors j'espère que notre invité ne nous en voudra pas, mais je vais parler d'un polar. Ce sont les magies de la lecture, les rencontres, les contrastes parfois, mais ce sont des mots également. Donc je vais parler de Imagine le reste, Hervé Commer. Publié par Fleuve Noir en 2014, un bouquin de 419 pages. Deux petits truands, Carl et Fred, qui vivent de combines minables, jusqu'au jour où ils entrent en possession d'un pactole, un sac plein de billets, 200 millions d'euros. Ils vont prendre la route et tenter de rejoindre Carole, qui avait pendant un temps croisé leur chemin. Bientôt, une autre histoire commence, celle de Nino, un chanteur qui ne croit pas en lui et se produit dans des troquets, ignorant tout de son talent. Et enfin Serge, bien décidé à récupérer coûte que coûte le sac de billets qui lui appartient, 400 pages serrées, des dialogues plutôt rares, une écriture efficace, voilà un roman que l'on ne lâche plus dès la première page. Hervé Commer sait raconter comme personne une histoire plutôt compliquée, dont il tire chacun des fils avec une efficacité confondante. De toute évidence, il y prend beaucoup de plaisir. Parfois, l'on se demande comment il va s'en sortir, mais n'est-ce pas un des charmes de tout bon roman policier? Pour autant, il ne se contente pas de soigner son intrigue, quitte à prendre certains risques parfois avec la vraisemblance, ce qui, chose curieuse, ne nous dérange absolument pas. Il nous livre des portraits fouillés, prend plaisir à décrire des personnages jamais manichéens, souvent en proie au doute, mais qui partagent tous ou presque un même amour de la vie. Au-delà de la violence, forcément présente, il est des moments de pur charme, comme cette nuit à la Belle Étoile, un jour à Syracuse. On apprécie la capacité de l'auteur à décrire la ferveur d'une scène musicale, ou bien la beauté d'un spectacle de cirque, les ambiances d'une rue, d'un bar, d'un vieil immeuble. Pour savoir comment Hervé Commer s'y prend pour réunir deux malfrats, une gouvernante noire, un impresario, un artiste de cirque, une tante acariâtre, lisez ce livre, il en vaut la peine. Enfin, un roman policier français qui conjugue un scénario très habile, des personnages qui ne sont pas de simples silhouettes, avec des seconds rôles étonnants, des scènes formidablement réussies, une atmosphère. Donc, Imagine le reste, Hervé Commer, Fleuve Noir, 2014. Est-ce qu'on a le temps de lire un petit extrait?
Vous êtes d'accord, Pierre?
D'accord.
Eh bien, allons-y. Donc, il s'agit du deuxième personnage, Nino, musicien, pour l'instant pas très sûr de son talent. Le Rougeau avait repoussé le micro en épongeant d'un revers de main la sueur qui lui dégoulinait du front et était retourné s'asseoir, hilar. Nino avait monté le volume des enceintes et s'était penché sur sa console. Il allait à son tour chanter quelque chose. Certains avaient protesté. Le balèze qui attendait son tour était parti aux toilettes en lui lançant un regard noir. Et Nino avait dédié le morceau à venir à ses sauveurs, « Those who saved me ». Personne n'avait su de qui il parlait ni de quoi. C'était un peu le brouhaha, même si un vague suspense planait dans la salle. Quelques regards froncés vers lui, et ceux de Fred et Carl Avanzato, droit dans le sien, sans un seul geste. Ses jambes tremblaient sous la console. Il n'avait pas engagé de disque dans la platine. Il avait respiré lentement et le silence s'était progressivement fait, comme si les lumières s'étaient éteintes. Quand il avait été presque complet, il avait pris son souffle et avait ouvert la bouche, sans la moindre idée de ce qu'il allait chanter. Cela s'était fait dans l'instant. Il avait sauté dans le vide. Une... Et le deuxième avait surgi, petite, et fille aussitôt, et la suite avait coulé dans les airs en rythme et en saccade, vite, une petite fille en fleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après. Quelques cris avaient fusé, des encouragements, des moqueries, deux ou trois sifflets, et les cris du Rougeau qui se lançait dans un nouveau Springsteen, a cappella, debout devant sa chaise pour lui faire concurrence, toujours hilar, et aussitôt rappelé à l'ordre par la table voisine. Et moi qui cours après, au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Le ton était monté, le silence s'était imposé, le patron s'était arrêté de servir au comptoir en le regardant éberlué. Nino n'avait jamais rien chanté sans musique, encore moins en français. Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. Il avait chanté le morceau entier sans quasiment reprendre son souffle, et ses côtes lui faisaient encore mal, et c'était tellement bon. L'amour, son bel amour, il ne vaut pas bien cher contre un calendrier. Le battement de son cœur, la douceur de sa chair, je les ai oubliés. Il ignorait si Carl Avanzato et Fred aimaient Nougaro, mais il savait qu'ils écoutaient, qu'ils couraient ensemble après cette fille en larmes sous la pluie, là, pile à ce moment-là. Il avait crié la fin, les « je t'aime » en cadence, et tous les clients du Paradiso s'étaient levés pour applaudir quand le morceau avait pris fin. Il s'était fait tout petit, derrière sa console.
Vous allez rebondir, Pierre, sur une lecture.
Voilà, parce qu'on parlait donc d'Hervé Comer, enfin d'un polar, imagine le reste. Je vais vous dire un petit texte de Ronelda Kampfer, qui est une jeune poétesse sud-africaine, qui joue aussi, enfin, dans sa poésie avec colère, mais avec beaucoup d'humour. Elle est noire, elle écrit en afrikaners, on l'a traduit en français, et elle joue sur une société qui n'est pas toujours facile. Alors le titre de ce poème, Attention, dépression. Si on t'a agressé, violé, si on t'a piqué ta bagnole, si on t'a kidnappé, séquestré surtout, va vite voir un psychiatre. Tout ça peut causer des dépressions. Ce sont de bonnes raisons de déprimer. Des parents de merde, des profs de merde, des églises de merde, de la bouffe de merde, des gens de merde, des fringues de merde, des règles de merde, des lois de merde, de la musique de merde, un temps de merde, des horaires de merde, des poètes de merde et une pensée de merde. Ce ne sont pas des causes de dépression, ça fait partie de la vie.
Alors justement, vous venez de lire ce texte assez fort, écrit en afrikaner. Alors le problème de la traduction, comment est-ce que vous le voyez à la Maison de la Poésie ?
On le voit plutôt bien, puisque depuis des années, on a traduit des poètes qui seraient jamais accessibles à personne, parce qu'ils sont dans des langues qu'on pourrait dire, même des langues importantes, mais minoritaires, hors de l'anglais. Enfin, voilà, combien il y a en France de gens qui connaissent l'allemand, qui connaissent le vietnamien, qui connaissent le tchèque, le slovaque, le japonais. Donc la traduction permet ça. La traduction, c'est souvent fait avec un traducteur et puis un poète qui réécrit, qui essaye de trouver le rythme, les mots, pour traduire dans sa langue quelque chose qui a été écrit à 500 km, à 1000 km, dans un autre, avec parfois une sensibilité différente, des expériences différentes. Donc c'est un enjeu compliqué, mais indispensable, et qui joue à la compréhension entre chaque être, de chaque pays, à des milliers de kilomètres de distance.
Et ça se passe bien ? Ça se passe bien, je veux dire, ce dialogue entre l'auteur du texte et puis son traducteur, son intermédiaire en quelque sorte.
C'est toujours des moments étonnants. Enfin, si on voit, par exemple, quand on a invité des gens de nombreux pays, et quand ils disent le texte et qu'ils entendent leur traduction, ils sont plus ou moins francophones, enfin, ou pas du tout, etc. Ils sont étonnés, enfin, ils remercient. Voilà, ils disent, t'as donné quelque chose à mon texte. C'est toujours... je pense qu'il y a une grande attente, enfin, pour que de chaque poète dans chaque pays, pour que cela circule. Et il faut que ça circule dans la langue du pays, dans la langue de la nation.
Pour nous donner l'envie, l'eau à la bouche, pouvez-vous nous donner quelques pistes pour le nouveau numéro de Bacchanal, quelques noms de poètes ?
Quand on fait, comme je disais, on a publié des poètes de nombreux pays. Mais là, dans ce numéro qu'on prépare sur la guerre et la paix, comment parler de la guerre et la paix si on fait appel qu'à des poètes de l'Isère, de la région Rhône-Alpes, de France, hein? Donc on a fait appel à Etel Adnan, qui est libanaise, Al Abdani Salah, des gens, Maram Al-Masri, qui est syrienne, il y a des gens de nombreux pays arabes, puis des auteurs portugais, des auteurs bulgares, des auteurs américains, et puis bien sûr des gens qui habitent autour de nous, qui habitent à Grenoble, qui habitent là. On essaye de... le rapport à chaque chose de la vie, cette chose dure, de la guerre, c'est important d'avoir l'expression poétique, voilà, de ces différents pays. Hein. Donc on va retrouver dans ce numéro, ben, il y a Sylvie Fabre par exemple, il y a un texte de Michel Butor, hein, il y a un texte d'Alphonse Cervera d'Espagne, Elisabeth Chabuel qui est sur Grenoble, le poète italien Ri De Luca, Rienzi Cruz qui est au Sri Lanka. Voilà.
Et pour trouver toutes ces personnes, parce que moi je me sens vraiment un peu ignare, c'est vrai qu'on croit qu'on connaît un petit peu, mais on ne connaît rien. Dès qu'on dépasse un petit peu les frontières, on a quelques contacts, mais pas tellement. Et là, mais c'est dans Bacchanal, chez vous, dans chaque numéro, vous avez un tel brassage. Et comment arrivez-vous à les connaître, à les contacter? Bon, les contacter, ça va, mais vraiment les connaître, savoir...
C'est un travail, enfin, en profondeur, et depuis de longues années, qui s'est fait en poésie, mais parfois qui s'est fait en travail d'histoire, de mémoire. Pour ma part, mais avec d'autres amis, on a travaillé... Bon, en France, il y a des familles d'origine portugaise, de façon importante, des familles d'origine algérienne, de façon importante, marocaine, turque, etc., italienne, voilà, et de nombreux pays... Donc, quand c'est important que les gens originaires du Maroc connaissent la poésie de leur propre pays, la poésie dans leur langue, en langue arabe, en berbère, en langue française, puisqu'ils sont francophones pour la plupart, mais qui connaissent, donner accès à l'art de leur pays. Et montrer que voilà, il faut aucune vision raccourcie enfin des gens. Donc c'est notre travail de la Maison de la Poésie, mais comme un travail de d'autres lieux culturels, c'est vraiment une curiosité, enfin une envie de découverte inlassable.
C'est vraiment ce qu'on ressent, et c'est magnifique d'avoir ces traces, et surtout dans une tellement belle revue que Bacchanal. C'est vrai, on le prenait en main, Dominique disait que ses dimensions étaient agréables. C'est vraiment, c'est félicitations, c'est super votre travail.
Pour revenir sur un numéro enfin, que vous avez là, l'anthologie qu'on a publiée des poètes vietnamiens. Il y a en Isère enfin des communautés vietnamiennes, en Savoie, etc. Là, on va faire un travail enfin, de mémoire de ces familles, de ces gens qui sont arrivés en 54 après Dien Bien Phu, qui sont arrivés après 74, après la fin de la guerre américaine. Voilà, et qui ont refait leur vie, qui font leur vie là dans plein de domaines. Il y a des chercheurs, des universitaires, des gens commerçants, enfin... C'est important. Enfin, les gens... Bon, la première fois que j'ai côtoyé ces gens-là, c'était en accueillant des poètes vietnamiens, en attendant dans une manifestation qui était ouverte à du commerce, à de l'histoire, à plein de choses. Il faut découvrir constamment. Et la poésie est une façon de découvrir de façon profonde l'imaginaire profond des gens, enfin, ce qui les structure dans chaque pays.
Alors bien sûr, dans la revue Bacchanal, il y a les mots, les poètes, mais il y a aussi des dessins, des gravures, il y a aussi des plasticiens qui illustrent magnifiquement ces poèmes.
Voilà, tout à fait. On a chaque numéro, c'est un travail. Enfin, on choisit un peintre, le plus souvent différent, donc des peintres de la région, puis d'autres peintres. Dans les derniers numéros, le numéro qu'on a fait sur le thème de la main, c'est le peintre Ernest Pignon-Ernest qui a travaillé dessus. Ce numéro sur les sciences, bah, c'est Rachid Qureshi, bon, qui est un grand peintre qui expose dans... Voilà, là, on va avoir un peintre qui va être Ali Silem, hein, qui est algérien d'origine, qui vit aujourd'hui en France, à Angers. Voilà, enfin, on a travaillé pour le numéro sur l'enfance avec Zahu, hein, qui a fait illustrer de nombreux albums pour enfants, en particulier chez l'éditeur Rue du Monde. Voilà, on essaye de croiser ces formes de poésie et de d'art, comme a pu le faire la Fondation Maït, voilà, qui célèbre un peu son anniversaire cette année. Enfin, il y a une longue tradition du livre d'artiste, du travail, des livres de dialogue, croisée entre peintre et poète, et c'est extrêmement important.
Et ce croisement, comment se fait-il? Est-ce que le plasticien lit les textes, les mots, ou bien ça s'intercale, c'est un peu l'inverse, et on met les mots sur déjà des gravures qui sont là?
Disons qu'on... On essaye effectivement enfin, de passer de l'un à l'autre. Enfin, on fournit, disons, on prévient dans la circulaire qu'on a, on dit au poète, le peintre qu'on a sollicité. Donc les gens peuvent avoir accès sur Internet à ses œuvres. Et puis au peintre, on envoie, on n'a pas forcément encore le numéro complet, mais on envoie 50-60% des textes reçus pour qu'ils s'imprègnent et, voilà, et créent ou donnent des œuvres qui vraiment dialoguent avec les textes poétiques.
C'est pour ça qu'on sent cette consistance entre les deux, c'est super.
Cette harmonie.
Cette harmonie, oui. FM 97.1 avec Pierre Vieuguet de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes. Nous venons d'entendre, pour terminer, Rabih Abou Khalil qui joue dans Dog River de l'album The Sultan's Picnic.
Alors, vous êtes en pleine préparation, j'imagine, d'un grand événement que vous allez organiser au mois de novembre. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Voilà, ça va être le 19e Festival international de poésie autour du thème de la guerre et de la paix. Voilà, donc il y a des rencontres importantes, enfin ouvertes largement au public, les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre, avec des lectures, des spectacles, avec une vingtaine de poètes invités, le poète Serge Pey, des ateliers d'écriture, des ateliers de typographie, hein, avec un typographe, Jean-Claude Bernard, des éditions Encre et Lumière, des tables rondes, bien sûr, autour de ce thème, de la guerre et de la paix. Voilà. Et on accueillera, bien sûr, le vendredi. Enfin, ça va se passer à Saint-Martin-d'Hères. C'est dans une salle qui, de l'Heure Bleue, qui est la grande salle de spectacle. On offre aussi ce jour-là un grand salon de l'édition avec une vingtaine d'éditeurs, un libraire, donc un grand choix de livres à acheter, des livres pour enfants à acheter avant les fêtes.
Le 28, 29 et 30 novembre, donc vendredi, samedi, dimanche. Mais vous avez déjà du prêt et du poste, ça ne s'arrête pas vraiment là. Et vous avez des lieux, parce que j'ai un peu regardé votre site et vous partez un peu partout. D'ailleurs, même dans la région, même près de Bourgoin-Jallieu.
Tout à fait. Il y a des manifestations dans de nombreux endroits. Enfin voilà, sur site vous aurez le programme détaillé. Il y aura des rencontres avec des poètes à Haute-Rive, au pays du facteur cheval, au bazar des mots, à Chabeuil, dans la Drôme aussi, à Romans, à la librairie des Cordeliers. Enfin, dans des librairies, dans des bibliothèques. Voilà. Dans l'ensemble du département de l'Isère, dans l'agglomération grenobloise. On inaugure une exposition avec le peintre qui va illustrer Bacchanal le 7 novembre à la bibliothèque Centre-Ville, où se trouve la maison du tourisme. Voilà, cette expo qui durera plusieurs semaines.
Et puis Serge P, ça va aussi déménager, parce qu'il y va fortement, les mots et le rythme, là, il a complètement... Et on peut l'écouter à quel moment de ce festival plus particulièrement? Vous avez une idée?
On va l'entendre le vendredi soir, le samedi, enfin le vendredi soir en spectacle, le samedi aussi, voilà, dans ces trois jours.
Il va encore nous sortir une super performance, comme d'habitude.
Il va, voilà, de choses rythmées, voilà, avec sa... une artiste sarde, Chiara Moulas, avec qui il a monté des spectacles. Et là, c'est des choses extrêmement étonnantes. Les gens, on est bouleversés quand on entend, parce que c'est rythmé, c'est un peu chamanique, on pourrait dire. Voilà, donc aussi... Voilà, ça déclenche les rires, les pleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Voilà, c'est Serge Pey, voilà, avec un joli don pour ce festival, la guerre, mais surtout pour la paix.
Oui.
C'est un homme voilà, qui, dans sa vie, a créé des textes, des performances étonnantes.
Il est très, très généreux, cet homme également. Alors, le site sur Internet, les 3W, est tout attaché, Maison de la Poésie, rhonealpes.com. Autrement, avec Google, même si on n'attache pas, je crois qu'on devrait y arriver et vous suivre. Merci beaucoup, Pierre Vieuguet. C'est un plaisir de vous revoir et puis d'avoir pris ce temps, parce que la veille d'un festival et d'une édition, ce n'est pas rien. Les heures sont comptées. Merci beaucoup.
Merci à vous et rendez-vous au festival.
Rendez-vous au festival. Merci Dan, merci Dominique et puis merci Laurent.
Merci
à vous tous. À bientôt.